dans ce troisième épisode de podcast, vécu de nos plus belles bottes et casques de chantier à paillettes, nous nous sommes rendus sur le chantier du futur pôle d'échange multimodal à Babinières.
Babinières, mais c'est où ça?
Mais si, Babinières, c'est le chantier que vous apercevez depuis le périphérique au niveau de la porte de la Beaujoire.
Non, je vois pas.
Mais si, sous le pont de la Jaunelière. D'ailleurs, d'un côté, il n'y a plus qu'une seule voie en ce moment. C'est pour pouvoir monter les piles du futur pont dédié au mode doux.
Ah oui, d'accord, ça y est, je vois bien, Babinières.
Ok, c'est bon là, on peut continuer? Et donc, nous étions sur le chantier et nous avons rencontré Hugo, les deux pieds également dans ses bottes, qui venait soulever des plaques à reptiles. Bon, cela dit, pour que vous compreniez bien le pourquoi de la présence d'Hugo, et avant d'entendre les petits oiseaux, on a préféré rendre visite à Géraldine, qui est chef de projet à la Sémitane. Pour nous, elle rappelle le contexte de ce chantier.
Je suis Géraldine Clopot, on est mandataire de Nantes Métropole pour l'opération Connexion Ligne 1, Ligne 2, Phase 2, et c'est ex-Babinières.
Vous écoutez Nantes Métropole Travaux, le podcast.
En fait, c'est un projet global qui regroupe trois phases, de préparer l'arrivée du tram-train, qui est tram-train Nantes-Châteaubriant, qui a été mis en service en 2014. Donc cette première phase a été mise, elle, en service en 2012. Là, on est sur une deuxième phase actuellement qui consiste à prolonger le tramway jusqu'à la station Babinières et également de réaménager le pôle d'échange multimodal du site, également de prolonger la voie mode doux de la partie existante aujourd'hui au niveau du pont de la Jaunelière jusqu'à Babinières. Et puis, un gros sujet, c'est de réaliser un CETEX, donc un centre technique et d'exploitation, qui est un site de la Sémitane pour remiser et maintenir toute la maintenance des tramways de la Sémitane. Donc là, c'est plutôt l'accueil des nouvelles rames de tramway qui avaient besoin d'un nouveau site plus grand pour faire ces opérations. Et puis plus tard viendra une phase qui n'est pas encore programmée par la métropole de connexion, à proprement parler, des lignes 1 et 2 entre Babinières et aux environs des facultés sur la ligne 2. Comme c'est un projet global et que c'est un projet de transport, on devait faire un dossier d'enquête publique qui contient une étude environnementale, donc c'est ce qu'on appelle une étude d'impact, où on fait un état initial en fait des enjeux qui existent autour du projet, que ce soit des enjeux environnementaux, mais aussi sociaux, économiques, culturels, et on évalue les impacts du projet sur ce qui existe pour évaluer leur impact et comment on peut les éviter, les réduire ou éventuellement les compenser si on ne peut pas faire autrement. Donc sur la partie environnement, en lien avec l'écologue, on a fait ce travail. Donc sur le site notamment de Babinières, il y avait quelque chose de très important, c'est une zone qu'on a appelée zone sensible à l'ouest du site, qui est au niveau du ruisseau de la Gévrine, en continuité du marais du Gève, qui est une zone à fort enjeu environnemental, puisqu'on a des chiroptères, donc des chauves-souris, on a une zone humide, on a des boisements avec des oiseaux protégés, on a des insectes, des grands capricornes, des reptiles. Donc c'était une zone qu'il fallait surtout pas impacter, puisque la perte aurait été trop importante, et l'impact surtout sur ces espèces protégées. Ces mesures, que ce soit l'évitement, c'est-à-dire qu'on n'impacte pas par exemple la zone sensible à l'ouest, que l'on réduit bien les impacts ou que l'on compense bien sur les sites, se doivent d'être suivies par un écologue, puisqu'elles ont fait l'objet par la préfecture d'une autorisation environnementale. Et donc derrière, on doit un suivi pour montrer que ce qu'on a dit que l'on ferait, ce qu'on a vendu, on le fait bien. Donc, et puis c'est important de montrer que ces mesures sont bien suivies. Et donc l'écologue doit venir, là pendant nos travaux au printemps et au début de l'été, la période la plus propice pour les espèces, venir vérifier que la zone sensible n'est pas impactée, que les mesures, notamment pour la cisticole, sont bien mises en place et que le projet suit son cours de la bonne façon. Il est par exemple venu voir l'impact sur les reptiles, puisque on avait impacté aussi avec les boisements des reptiles, donc vérifier qu'il y en a toujours autour et qu'ils ont trouvé des solutions de repli.
Et maintenant, on retrouve les bips des engins de chantier, les chants d'oiseaux et bien sûr Hugo, ce passionné qui nous explique tout de la mesure de compensation et donc de son travail.
Du coup, on va passer par là. Hop. Donc ici, nous sommes sur le site de Babinières. Donc, la dérogation est bien large. Et donc en fait, il y a aussi plusieurs sites sur lesquels on s'occupe. Donc il y a notamment un site de compensation qui est à Port-Barbe et la Ménardais. Donc Port-Barbe, c'est également nous qui faisons le suivi. Donc en fait, le but de Port-Barbe, c'est de créer un espace naturel favorable à une espèce qui a été... dont l'habitat a été détruit pour ce chantier, qui est la cisticole des joncs, qui est un petit passereau protégé, voilà, qui aime en fait les grandes végétations herbacées, c'est-à-dire en fait les prairies hautes, ouais, à tendance humide. Voilà, donc il y a un suivi qui est en route, où on a plusieurs passages tout au long du printemps. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est important pour réglementairement, en fait, c'est la nidification de l'oiseau. Avant, là-bas, historiquement, c'était un swing golf. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont arrêté de tondre pour que la prairie, elle grandisse, elle monte un peu en charge et que ça devienne favorable à la cisticole.
Et avant l'inventaire des petites bêtes présentes sur place, c'est vous qui gérez l'étude ?
Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que pour une zone compensatoire, en fait, il faut déjà qu'il y ait un inventaire de la zone, parce que si on veut mettre en place dessus, il faut voir que ça nuit pas à ce qui est déjà sur place. Ouais. On peut pas mettre sur un bel habitat qui est déjà en place, entre guillemets, on peut pas venir faire du chantier pour remettre autre chose. Donc en fait, il y a déjà des inventaires qui ont été menés sur Port-Barbe et sur la Ménardais pour voir si... il n'y a pas trop d'enjeux sur site, qu'on peut faire des choses et qu'en plus bah, le site est favorable. C'est-à-dire que si c'est une forêt et qu'on veut mettre en place un marais, c'est pas possible. Pour compenser du marais, il faut trouver un marais qui est en mauvais état. Donc il y a eu ces études qui ont été faites. Donc voilà, il y a les suivis en cours. Et puis ici, en fait, on est plutôt sur ce qu'on appelle du suivi de chantier. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui ont été mises en place dans le dossier de préservation de la biodiversité au sein du chantier. Mais en fait, il y a notamment le maintien d'un corridor vert qui est censé longer le périph. Mais du coup, en fait, il y a la préservation de tout l'aval du chantier là, avec il y a notamment un cours d'eau qui passe en bas. Donc il y a trois plaques. Alors pour ce site là, il y a trois plaques à reptiles qui ont été mises en place. Donc deux en lisière de la forêt et une sur le reste de corridor là-bas. Il y a deux points IPA. Donc les points IPA, c'est des, c'est-à-dire un indice ponctuel d'abondance. En fait, c'est des points d'écoute pour les oiseaux. Donc en fait là, on arrive sur le point, on attend 10 minutes le temps de s'acclimater, que les oiseaux ils aient plus peur entre guillemets. Et ensuite pendant un quart d'heure à 20 minutes, on va venir écouter tout ce qui se passe pour connaître en fait la population d'oiseaux qui nous entoure. Donc il y a ça, et donc il y a deux points d'IPA, il y a trois plaques à reptiles comme j'ai dit, et il y a de la pose d'enregistreurs chiroptères, donc c'est les chauves-souris, les chiroptères. Donc la première pose a déjà été faite début mai, le 4 mai il me semble, et donc là pareil, c'est trois enregistreurs. Il y en avait un au niveau de l'arbre là, un en bout là-bas, et puis un pareil, espèce le long de la forêt.
Entre deux explications sur les IPA, captivé par son environnement, Hugo se fait happer par les chiroptères.
Toutes les chauves-souris sont protégées. Voilà. Alors, il y a quelques espèces qui ont été ciblées dans... En fait, toutes les espèces n'habitent pas l'espace, habitent l'espace différemment. Il y a celles qui sont plus sur les zones humides, celles qui sont dans les bois, machin. Hein. Mais globalement, c'est toutes les espèces qui sont visées. C'est-à-dire là, un magnifique faucon cresserelle, donc qui est une espèce protégée. Alors là, elle n'a pas grand lien avec le périmètre d'étude, juste y traverse. Et ça fait partie des espèces importantes chez nous.
Puis revient sur les IPA.
C'est déjà la troisième fois que je passe ici. Bon, je passe un peu, dès que je suis dans le coin, je passe jeter un œil. Pour les plaques, alors c'est le premier IPA. Parce qu'en fait, du coup, les IPA, en fait, c'est pour la nidification des oiseaux. Et donc, la nidification des oiseaux, en gros, c'est fin avril à fin juin. C'est ça la période pour l'inventaire de la nidification des oiseaux. Donc en fait, le premier, c'est au mois de mai. Et on aura un second au mois de juin que je ferai. Donc là ce matin ce sera les premiers. En revanche du coup les plaques à reptiles ça fait 3-4 fois que j'élève. Et ce que j'ai déjà observé c'est le lézard des murailles, qui est un petit lézard ultra commun mais qui est protégé. Petit lézard marron, celui qu'on voit partout chez soi, sur la terrasse, machin. Et il y a l'orvée fragile, donc qui est l'orvée de chez nous, qui est pareil, qui est un lézard apode. Donc c'est un lézard sans pattes, faut pas le confondre avec un serpent, il ressemble beaucoup. Et donc on risque d'en voir ce matin. Et en fait ce qui fait que c'est un lézard, c'est que par exemple l'orvée il peut perdre sa queue. En fait, c'est comme un lézard.
Et qui dit espèce protégée veut dire espèce menacée ?
Non. Il n'y a pas vraiment de corrélation parce que, par exemple, on voit que les mésanges qu'on a sur nos balcons, nos terrasses, dans nos jardins, elles sont toutes protégées. En fait, c'est plutôt... protégée veut dire pas chassable. C'est plutôt ça ce qu'il faut retenir. Parce qu'en fait, on a des espèces protégées qui sont très communes, on en a qui sont très rares. Mais on a aussi des espèces chassables qui sont pas protégées, qui commencent à devenir rares. Comme la tourterelle des bois ou je pense à quelques oiseaux d'eau, notamment des canards.
Bon, après 20 bonnes minutes sur le chantier à parler de cisticole des joncs, d'orvée et de chiroptères, nous, on a bien envie de voir ce qui se passe sous les plaques. On y va ?
Alors, il y a une première plaque qui est là-bas. Donc, on va essayer de monter, là.
En fait, bon, vous allez voir, mais c'est une dalle en une espèce de matière bitumineuse qui est noire, qui est ondulée. Et donc, en fait, dès qu'il y a un brin de soleil, elle va chauffer en première. Et comme les reptiles sont des animaux à sang froid, ils cherchent la chaleur. Et en fait, ils vont venir se glisser dessous préférentiellement. Mais en fait, ça permet de rameuter un peu tous ceux qui sont dans le coin.
Ah, ma question est peut-être un peu bizarre, mais c'est quoi une plaque à reptiles idéale? C'est ça, quoi, en fait?
Donc, en fait, les plaques à reptiles, ça vise principalement les reptiles. Mais on trouve tout plein de trucs dessous. Régulièrement des fourmilières, parce qu'en fait, dans les endroits rares, comme ça, c'est le seul abri. Souvent des micro-mammifères, donc des souris, des mulots. Même au printemps, on a souvent des nids qui viennent se mettre dessous. On a déjà chopé des nids avec des petites souris dedans. Des belettes aussi, on a déjà eu. Des crapauds. Voilà, la première, elle est ici. Hop. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les reptiles, ce sont des proies. En fait, même les serpents, sont des prédateurs à leur échelle, mais ça reste des proies. Et du coup, ce sont des animaux qui se cachent. Et en fait, le grand paradoxe du reptile, c'est qu'en fait, à la fois, donc c'est un animal à sang froid, donc il a besoin de se chauffer, mais il a besoin de se cacher, donc en fait d'être à l'ombre. Et donc en fait, c'est pour ça quand on fait des inventaires sur les reptiles, ou qu'on cherche des reptiles en règle générale, il faut les chercher en lisière de boisement ou en lisière de fourré. Parce qu'en fait, en lisière, ils vont pouvoir capter la lumière du soleil, et s'il y a un danger, ils se remettent dans le bois ou dans le fourré. Donc en fait, une plaque idéalement placée, elle est à la lisière. Le but, c'est de regarder s'il reste. C'est juste ça.
Malgré le chaos du chantier.
Exactement. Alors, sachant qu'on sait très bien qu'ils ne sont pas là, en fait. Mais en fait, c'est voir si le chantier impacte les populations qui peuvent être alentours, voilà, périphériques.
Et une fois que le chantier est terminé, est-ce qu'il y a un suivi pour vérifier si les animaux sont toujours à proximité ?
Alors dans les dossiers, il y a des mesures de suivi de chantier. Donc c'est pendant exploitation et après exploitation. Souvent c'est une fois par an, pendant plusieurs années, des fois ça va jusqu'à 15 ans. Et où on revient, souvent on demande de créer des aménagements favorables à la faune. Donc pour les zoos, ça va être la création de nichoirs intégrés dans les bâtis. Ça peut être la création de pierriers pour les reptiles. Donc en gros c'est des murs de pierre qu'on installe bêtes et méchants pour que les reptiles viennent se mettre dessous. En revanche, ce qui est pas obligatoire, c'est le suivi. Mais en fait, il est grandement encouragé globalement dans tous les dossiers. Maintenant, il y a des suivis.
Le rapport de l'écologue est vraiment pris en compte par les maîtres d'œuvre ou il ne fait qu'apporter un conseil?
Les dérogations sont des obligations réglementaires et il peut avoir une obligation de résultat. Donc en fait, si les aménagements sont mal faits, on peut demander de leur faire. Nous, ça nous arrivait régulièrement. Ou par exemple, les pierriers qu'on demandait pour les reptiles ne nous convenaient pas. C'est-à-dire qu'ils étaient mal faits, c'était pas avec les matériaux qu'on avait demandé. Ils sont refaits. C'est une obligation réglementaire. Ouais. Donc, sur ça. Après, en fait, la limite, c'est que c'est pas parce que l'habitat est là que l'espèce vient. En fait, si je mets un bel habitat, mais au milieu d'un désert, au milieu d'un parking, ils viendront jamais. En fait, après, c'est un problème de corridor. En fait, il faut qu'ils puissent revenir. Et en fait, quand on a des grandes surfaces planes sans rien, les reptiles, ce sont des proies. Ce sont des animaux qui ne traversent pas. Donc, en fait, il faut des corridors, alors pas de boisement, mais de ronciers, de fourrés, pour les amener petit à petit. C'est ça la difficulté, c'est que. C'est pas parce que l'habitat est là que l'espèce est là. Il faut qu'elle vienne. Alors, c'est pas tous les groupes taxonomiques comme ça. Les oiseaux, vu qu'ils volent, l'habitat il peut être au milieu de nulle part, finalement il viendra. Mais en revanche, tout ce qui marche, on va dire à pattes, c'est plus compliqué.
Et en tant qu'écologue, est-ce que vous pouvez stopper un chantier totalement?
Ça peut arriver si par exemple j'observais une espèce très très rare qui se balade au milieu du chantier. En fait, il y a toujours un biais de cohérence. C'est-à-dire que si je vois une espèce méga rare au milieu du chantier, quand on voit l'habitat du chantier, ça n'a pas d'intérêt, en fait. En gros, ça n'arrive quasiment jamais. Et ça arrive sur certains chantiers avec des enjeux environnementaux bien plus présents qu'ici. Ici, on est sur un chantier plutôt banal, finalement. C'est un gros chantier, mais d'un point de vue environnement, il n'y a rien de très extraordinaire.
Et on continue notre visite de chantier à la recherche de la prochaine plaque à reptiles. Vous nous suivez?
Alors, il y a une plaque qui est là. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Eh ben rien, a priori. On a une belle chenille au fond, là. Bah, en fait, tout le monde se planque pour dormir, c'est universel. Bon, et maintenant, on va à la dernière où j'ai jamais été déçu pour l'instant. On croise les doigts. Ah, bah voilà, des beaux orvées. Alors, c'est un lézard, donc c'est pas venimeux, il n'y a rien à craindre. Donc ça, c'est des mâles, ils sont bicolores et ils ont la rayure noire sur le dos. Donc ça c'est un beau petit mâle. Et donc en fait, ce sont des lézards à pattes parce que quand on étudie, notamment quand on regarde leur squelette, on voit qu'ils ont des restes de pattes osseux en fait.
Donc là, il y avait deux mâles. Ouais, il y avait deux mâles. Je crois qu'au plus, j'en ai eu 3-4 sous la plaque.
Au sein de la forêt, il y en a sûrement des centaines.
Et après, là, on catalyse ceux du coin. Et puis bon, vous voyez, des fois, j'en ai chopé 4, des fois 2. Ça va, ça vient. En fait, l'orvée fragile, donc celui qu'on a vu là, c'est un reptile qui affectionne les milieux frais. En fait, c'est un reptile qu'on trouve souvent dans les sous-bois, dans les lisières, qu'on va presque trouver même en limite de zone humide. Il est vraiment très différent des autres reptiles qui, eux, préfèrent plutôt les soleils, les endroits bien, bien ensoleillés, tout ça. Par exemple, je suis sûr que quand le chantier sera fini, qu'il sera mis en œuvre, des lézards des murailles, il y en aura tout le long là. Mais en fait, l'orvée fragile, c'est un grand classique des placards reptiles qu'on met le long des bois, un peu frais, tout ça. Donc, il est protégé, mais c'est très, très commun, très courant. On en a dans les jardins, enfin, il y en a partout, on pose des plaques, on en trouve hein, globalement. Alors, l'orvée, il a une réglementation bien particulière parce qu'en fait, la plupart des reptiles, ils sont article 2 sur leur protection, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la protection des individus et des habitats. Et en fait, l'orvée fragile, il est article 3, en fait, il n'y a que la protection des individus. Son habitat n'est pas protégé.
En se décalant du périphérique pour l'IPA, le point d'écoute pour ceux qui n'auraient pas bien suivi, j'étais étonnée qu'Hugo n'ait pas avec lui un enregistreur ou une caméra. Enfin, un outil moderne, tout simplement.
En fait, bah, je fais à l'oreille et puis aux jumelles. Alors, c'est en train d'être développé, hein, les enregistreurs pour les oiseaux. Ça marche pas trop parce qu'en fait, toutes les chauves-souris crient pour se déplacer. Alors que les oiseaux, il y en a qui font très peu de bruit. Donc, et puis même, en fait, selon la période, les oiseaux ne chantent pas particulièrement. En fait, les oiseaux, ils chantent en période de reproduction pour marquer leur territoire, attirer des femelles, tout ça. Mais hors période de nidification, ils chantent pas particulièrement, les oiseaux. Ils crient, ils font des petits cris.
Et il paraît même que ça existe pour les chauves-souris.
Donc les enregistreurs Kiro, en fait, ce sont des petits boîtiers avec un micro qui capte les ultrasons et qu'on pose une nuit entière et qu'on vient poser 2 à 3 fois par an. Donc souvent, c'est mai-juin. Et pour certains, c'est jusqu'en septembre. En fait, les chauves-souris, elles pratiquent l'écholocation. C'est-à-dire que vu qu'elles vivent la nuit, qu'elles ont des tout petits yeux, en fait, elles ont comme un système de sonar, comme les baleines ou les dauphins, les orques. Donc en fait, elles vont émettre des sons par leur bouche ou par leur nez pour certaines. Ça va rebondir sur les proies. Elles vont les recapter et en fait, elles vont interpréter. Une chauve-souris, pour qu'elle se déplace, elle a besoin de crier. Et donc, les enregistreurs, eh ben, en fait, dès qu'il y en a une, on la capte. Et ensuite, grâce à des... Alors, soit c'est fait à la main, mais c'est de plus en plus des algorithmes qui permettent, en fait, d'identifier l'espèce.
Ouais.
Ah, le petit oiseau qu'on vient d'entendre, qui avait tip, 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 tip.
Mais si, celui-ci. Écoutez bien.
C'est de plus en plus des algorithmes qui permettent, en fait, d'identifier l'espèce.
Ça y est, vous l'avez entendu ?
C'est le pouillot véloce, qui est un petit oiseau protégé assez commun. Celui-ci.
Et du coup, la chauve-souris, en termes de nidification, comment ça se passe ?
Alors, les chauves-souris, on appelle ça des gîtes. Il y a des espèces qui vont privilégier les grottes ou les bâtis, les greniers, tout ça, l'image typique qu'on a du grenier où il y a les chauves-souris dedans. Et il y en a qui vont privilégier les gîtes sylvicoles, donc dans les arbres. Donc en fait, elles vont mettre bas, donc c'est souvent des petites colonies, dans les trous. Donc on a des gros arbres avec des trous au milieu et elles vont se mettre dedans. La reproduction de la chauve-souris, c'est assez particulier parce qu'en fait, la reproduction... Excusez-moi, je coupe. Ça, c'est la bouscarle de Seti. C'est un oiseau qui est protégé et qui, en plus, a un mauvais état de conservation. Donc, en plus, il est patrimonial. C'est aussi très commun. C'est l'oiseau typique, en fait, des zones humides. Donc, en fait, en bas, il y a un petit cours d'eau avec une belle zone humide qui passe. Les fleurs jaunes, c'est des iris des marais qu'on voit là. Et c'est méga typique. Et alors, du coup, les chauves-souris, pour revenir, en fait, la gestation est un peu particulière parce qu'en fait, l'accouplement se fait en septembre. En fait, elles hibernent. Donc, en fait, elles font une diapose embryonnaire. Elles coupent la croissance du petit. Et quand elles se réveillent au printemps, elles remangent tout ça et là elles mettent bas. Donc elles attendent le printemps que la ressource alimentaire revienne. Hop, et en fait quand elles recommencent à manger, elles reprennent des forces, elles remettent en place la gestation. Les chiroptères. Petit aparté. Donc ils se dirigent avec l'écholocation. Donc en fait, ils ne voient pas. En fait, ils ne peuvent pas se repérer dans l'espace. Donc en fait, un des gros sujets des chiroptères, c'est les corridors écologiques. Et notamment les haies. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils vont se repérer. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une femelle qui a un gîte, il faut qu'elle retrouve où est son petit. Donc en fait, il faut qu'elle, en fait, elle va suivre un fil d'Ariane, en gros, qui est la haie. Donc en fait, une chauve-souris, il y a peu de chances qu'elle s'aventure là, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une chauve-souris au milieu d'une prairie, elle est perdue. Même si toutes les chauves-souris, en fait, il y en a qui ont des cris, on va dire, qui vont très loin, qui permettent de détecter très loin. Donc elles peuvent traverser des zones très grandes, parce qu'en fait, elles captent la haie qui est au fond. Et il y en a qui ont des cris très courts, donc en fait, qui, on va dire, entre guillemets, ne voient pas à 10 mètres devant elles. Ça, ce sont les chauves-souris. Donc en fait, c'est juste pour constater qu'en fait le corridor est resté et que les chauves-souris continuent de se balader le long du corridor. Mais vous voyez, dans les enregistreurs Kiro, on n'en a pas mis au milieu du chantier.
Oui.
On les a mis en fait en bordure des corridors.
Ouais. Bon, les chauves-souris, c'est sympa, hein, j'adore, c'est pas le problème. Mais si on revenait aux oiseaux plutôt.
Bon, alors là, en fait, on est sur un... On n'a pas encore terminé, mais je sais globalement ce qu'on va trouver. En fait, là, on est sur le cortège assez typique des boisements. Donc, Puyo Veloz, qu'on a entendu tout à l'heure, le Rouge-Gorge. Alors, qui change un peu la Bouscarde, mais c'est normal vu qu'on a une zone humide. Tout à l'heure, il y avait un pinson, le pinson des arbres, qui est méga commun. Bon, le fourmi chasseur qu'on a vu, c'est un peu différent. Le pigeon ramier qu'on a vu tout à l'heure, qui est aussi un truc méga commun du boisement. Donc, en fait, les espèces d'exception sont souvent dans les milieux d'exception. Ce qui n'est pas le cas ici, parce qu'ici c'est un boisement plutôt normal. Mmh. Donc en fait, on a le cortège des espèces sylvicoles classiques.
Et en Loire-Atlantique, on a des espèces ultra protégées ?
Chez nous, il n'y a pas grand-chose. Au mieux, on a des espèces qui sont du coup patrimoniales, mais pas protégées. Alors en fait, la patrimonialité, ça veut dire qu'on reconnaît à l'espèce un enjeu, mais que ça ne lui vaut pas une protection. Alors, il existe plusieurs listes en France. Donc il y a les listes rouges, principalement. Donc en fait, ces listes rouges, elles sont mises en place par l'UICN, qui est l'Union Internationale de Conservation de la Nature. Et qui en fait, tous les, je sais pas, X années, sort une liste qui fait état de la conservation des espèces à l'échelle française et à l'échelle régionale. Et donc en fait, en gros, elle pose 5 statuts, donc préoccupation mineure, quasi menacée, vulnérable, en danger et en danger critique. Et après, bon, il y a éteint. Et donc en fait, selon où se trouve l'espèce, ça lui donne de l'enjeu. Si elle est en préoccupation mineure, ça veut dire que le statut de conservation est bon, donc que les populations se portent globalement bien. En revanche, si elle est en danger critique d'extinction, ça veut dire que les populations sont en cours d'effondrement et que du coup l'état de conservation est très mauvais, donc ce sont des espèces auxquelles il faut faire attention, il faut prendre en compte. Alors, tous les reptiles sont protégés, donc peu importe l'état de conservation, en fait, finalement, tous les reptiles sont protégés, quasiment tous les amphibiens sont protégés, donc les amphibiens, c'est les salamandres, les tritons, voilà, et les grenouilles. Et alors, je disais que tous les amphibiens sont protégés, pas tous. En fait, la seule exception, c'est la grenouille verte, parce qu'elle est consommable. Et la grenouille rousse, en fait, qui sont les grenouilles. Voilà, c'est ça, c'est les grenouilles qu'on mange. Ah ouais, bah. Les mammifères, il y en a très peu de protégés. Les protégés, parce qu'en fait, ils sont quasiment tous considérés comme chassables ou nuisibles. Les seuls protégés, en fait, c'est les emblématiques, le castor, la loutre, la genette. On a le campagnol amphibie, qui est un petit campagnol de zone humide, mais qui aime les jonchets, donc on trouvera pas là. Et puis le campagnol amphibie aussi. En agglomération nantaise, en fait, c'est la loutre et le castor qui sont principalement sur la Loire. Alors, sur l'île de Nantes, le parc Beaulieu, tout à droite, on a des études là-bas, et il y en a. Sur l'Erdre, il y en a en amont, mais pas de ce côté-là plutôt. Et en fait, globalement, des castors, il y en a en amont de Nantes. En aval de Nantes, il n'y en a pas trop. Il n'y en a même pas. En fait, après, c'est l'eau saumâtre et c'est plus compliqué. Ouais. Les oiseaux, un grand nombre sont protégés. Je crois que. Alors, en France, on est quand même le pays d'Europe avec le plus grand nombre d'oiseaux. Alors, quand un oiseau n'est pas protégé, il est chassable. Hein. Globalement, c'est ça. Donc, en fait, on est le pays d'Europe avec le plus grand nombre d'oiseaux chassables. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est entre 30 et 60, alors que la moyenne, elle est à 11. Mais bon, ça veut dire qu'en gros, on a 250 oiseaux, espèces d'oiseaux chez nous. Alors, plus ou moins 100, selon l'hivernage, le machin, selon où on est en France. Mais ça veut dire qu'en fait, une bonne partie est protégée. Alors, comme je disais, protégée, ça ne veut pas dire que l'espèce se porte bien. Et en fait, non, chassable, ça ne veut pas dire qu'elle se porte bien non plus. On a le cas d'une espèce qu'on retrouve pas mal par chez nous, qu'on aurait pu entendre ce matin, mais qu'on n'a pas entendu, qui est la tourterelle des bois. Qui est une espèce de tourterelle très très belle, qui passe l'hiver en Afrique et qui vient nicher chez nous. Et puis une espèce qui est en train de s'effondrer, qui est encore chassable, mais dont en fait les préfets posent des arrêtés pour interdire la chasse.
En tant qu'écologue, vous ne travaillez que sur des chantiers ?
En fait, on a tout un spectre de missions. J'ai un collègue qui fait beaucoup de suivi de chantier, mais en fait, vu que là, il y avait un vrai sujet, mais il est botaniste. Et vu que là, en fait, il y avait un vrai sujet faune, c'est moi qui ai été mis. Mais moi, en fait, en général, je fais plutôt de l'inventaire. Donc on a des gros inventaires en cours, hein. On a la Bouscarde de Séti, ça. Donc le champ, en fait, on reconnaît que c'est un champ qui est très très fort. C'est un champ qui passe par-dessus les autres. Donc voilà, là on est dans le milieu type, hein. L'espèce de marais avec un peu du fourré, c'est méga typique. Donc en fait, la Bouscarde de Séti protégée, et elle est classée quasi menacée sur la liste rouge France. Donc en fait, c'est ça qui fait qu'elle est patrimoniale. Quand on va faire nos inventaires, ensuite on va rendre l'étude au client. Et après, il y a une obligation réglementaire. Tous les ans, les bureaux d'études doivent transmettre leurs observations au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, dans le cadre en fait de l'inventaire national. Voilà, voilà. Ouais. Oui, il y a une obligation réglementaire en fait de remonter toutes les données qu'on a.
D'accord.
Ce qui est normal. Étant donné qu'on est sur des sites privés et que les études sont privées, les données leur appartiennent. En fait, ce sont des données privées qu'on récolte. Alors, du coup, c'est outrepassé par le fait que tous les ans, eh ben, on envoie au Muséum d'Histoire Naturelle, même si eux, ils prennent en compte que c'est de la donnée privée.
Fin de notre visite, j'ai été surprise par le sol qui vibrait sous mes pieds lors du passage d'un engin chantier. Je me suis demandé comment les espèces terrestres pouvaient vivre ces nouvelles sensations.
Mais on sait aussi que les reptiles, ils sentent beaucoup par le biais des vibrations. Alors, ouais. L'exemple type, alors qu'il n'est pas chez nous, mais c'est l'éléphant d'Afrique qui communique même par les vibrations du sol.
Ouais.
Mais donc oui, c'est extrêmement important. Et ça fait partie, en fait, une fois que les dossiers sont mis en place, il y a une partie qu'on appelle impact et mesure. Donc là, en fait, on vient lister tous les impacts du chantier, donc qui va en fait du truc le principal, qui est la destruction de l'habitat, à est-ce que l'éclairage nocturne, une fois que le bâtiment sera fait, parce qu'avant on était sur une zone sauvage où il n'y avait pas d'éclairage nocturne, à la fin il y aura de l'éclairage nocturne, quel impact ? Impact sur les chiroptères, donc sur les chauves-souris, sur les insectes nocturnes, les papillons de nuit, sur les rapaces nocturnes, les chouettes et les hiboux. Dans le listing, il peut avoir les vibrations. Il y a du coup l'éclairage, le bruit, les poussières qui est surtout un problème pour la végétation. La poussière vient se poser sur les feuilles et ça empêche la photosynthèse. Donc en fait, il y a certains chantiers où ça se fait notamment dans les carrières, où en fait tous les jours ils viennent arroser, voilà, pour faire tomber la poussière.
Et du coup, qu'est-ce qui a fait que le chantier a pu débuter l'année dernière ?
Au mois d'août dernier, ils attendaient l'autorisation pour démarrer le chantier. Et en fait, la mesure, c'était que la cisticole des joncs ne niche plus sur site.
Déjà.
Voilà. Donc, globalement, le mois d'août, c'est la fin de la nidification. Les oiseaux font plusieurs nichées. Enfin, la plupart des oiseaux, notamment les passereaux, ils font plusieurs nichées. C'est-à-dire que les mésanges, par exemple, elles font 4 nichées dans le printemps. Donc les cisticoles en font 3 en général. Et donc au mois d'août, j'étais venu avec mon collègue pour voir si la cisticole était toujours en train de nicher. La cisticole était à un niveau de nidification très avancé, c'est-à-dire qu'elle était avec ses petits, pour le coup, qui étaient déjà en volant. Donc en fait, on avait des familles qui se baladaient sur le site. Normalement, c'est un couple. Hein. Et là, ils étaient 6. En fait, en gros, c'était le couple et les quatre jeunes avec eux. Donc en fait, on est à un stade où, on va dire, si on commence à détruire les prairies, les oiseaux pourront s'envoler. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la protection de l'individu chez les oiseaux, en fait, elle est embêtante pendant la période de reproduction. En fait, quand il y a des oisillons ou quand il y a des œufs, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas partir d'eux-mêmes. Alors que c'est pour ça que souvent les chantiers ou la destruction d'habitat se fait en hiver, parce qu'en fait, il y a que des adultes. Il est pas bête, hein, quand il est dans l'arbre, qu'on coupe l'arbre, il s'envole. Quand on dit la cisticole, non, en fait, on parle d'habitat à cisticole.
Oui.
C'est pas la cisticole numéro 1 qui revient,
qui
part et qui
année,
revient. Voilà, pas du tout. Pas du tout. En fait, nous là, ce qui a été détruit, c'est de l'habitat favorable à cisticole. Et ce qu'on veut créer, c'est de l'habitat favorable à cisticole. Il n'y a pas de notion d'individu, de machin. Parce qu'en fait, ce qui est protégé, c'est les individus et leur habitat. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est retrouver un habitat favorable pour que les espèces puissent venir s'implanter dessus. Donc en fait, au mois d'août, quand on était venu, la nidification était avancée, il n'y avait plus de jeunes au nid, tout était en volant, donc c'est là que les travaux ont été lancés.
Et voilà, notre inventaire des petites bêtes à babinière est terminé. Mais soyez sûr qu'Hugo, lui, reviendra pour veiller sur la faune jusqu'au premier tramway entrant dans son nouveau CETEX. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.